Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aux côtés du prêtre roux Antonio Vivaldi, les jeunes filles de l'orphelinat Pio Ospedale della Pietà à Venise apprenaient et jouaient du hautbois, du violon, de la flûte, du violoncelle, mais aussi de la trompe marine. La musique présente au plafond de la Pietà, la chapelle qui a la forme mélodieuse d'un violon, une peinture que l'on doit tant écouter que voir. Heure vénitienne, Tiepolo et Vivaldi à la Pietà, première diffusion sur France Culture le 3 octobre 1969.
Oh Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrées à Venise par René Huyg et Marcel Brion de l'Académie française. Aujourd'hui, Tiepolo et Vivaldi à la Pietà.
Vénus, assise sur la nue, laisse l'azur nacrer ses bras et fait jouer sans embarras l'enfant ailé qui la voit nue. Tous les nuages sont partis, portant les héros et les reines qui font, au collier que tu traînes, Vénus, pendre leur cœur transi. Antoine, le pasteur fidèle, Armide, Hector, Cléopâtre, percés du trait qui les navra, à te joindre mettent leurs ailes. Sans te soucier de leurs bons, qui sont périlleux et tragiques, toi, dans des poses magnifiques, tu gagnes le haut des plafonds, et là, bientôt diminué, plus pâle que l'aube, Vénus, sans même entendre leur chorus, tu disparais dans la nuée. Jean-Louis Vaudoyer.
Tiepolo est admirable à Venise en maints endroits, mais c'est peut-être à la Pietà que l'on trouve un de ses plus beaux plafonds. On en trouve même deux exactement, puisqu'il y en a un petit, ovale lui aussi, qui se trouve au-dessus de l'autel, dans la chapelle principale, et qui fait une rime en quelque sorte au grand plafond, qui est lui longitudinal, ovale également, qui se trouve sur la nef principale. Et on ne peut pas comprendre Tiepolo si on voit des reproductions de ses œuvres, si on ne les situe pas comme il est nécessaire de le faire dans ces églises du XVIIIe siècle où un élan général se retrouve qui n'a plus existé pour ainsi dire depuis le Moyen-Âge. On voit toujours le XVIIIe comme une époque superficielle. En réalité, nous l'avons déjà entrevu lorsque nous étions à Torcello, en réalité, il y a là un retour à la dématérialisation de l'art et qui a une portée religieuse contrairement à ce que l'on imagine d'ordinaire. Dans ce plafond de Tiepolo, qui est un triomphe de la foi, l'ouverture de la peinture et comme la conclusion de toute l'architecture. Il y a une architrave horizontale qui semble arrêter la zone où se trouvent les fidèles et toutes les activités de l'église. Puis le plafond, il y a là un souvenir, la voûte plus exactement, il y a là un souvenir gothique, part avec ces arêtes fines qui décrivent des arcs brisés et viennent soutenir, en même temps que ces arcs qui aboutissent, viennent soutenir le grand cadre ovale ou le plafond. Et à partir de la peinture, c'est une trouée. Et dans cette trouée, c'est peu à peu la résorption du monde humain dans un monde de nuées. Tout se décompose et passe par l'intermédiaire des nuages, passe au vide et à la lumière, une lumière de Venise changeante et modulée par des nuages qui ne sont plus que des brumes légères à certains endroits, des brumes blanches, des clartés. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment, devant un aussi vaste espace où les personnages sont perdus et ne peuvent plus composer la peinture, c'est de voir comment Tiepolo procède. Il procède d'une part en employant encore les grandes lignes géométriques de l'Italie classique, mais il les prend par exemple dans les bras de la croix que soutient le Christ. Et il les prend, ce qui est plus curieux au premier plan, dans les instruments de musique. Il y a là un orchestre d'anges, un concert d'anges, et le manche des instruments décrit de grandes lignes qui perforent, pour ainsi dire, l'espace. Et c'est ainsi qu'il établit peu à peu quelques grandes lignes. Puis dans les intervalles, c'est le nuage, c'est le côté floconneux, et c'est une ondulation qui évoque à la fois l'ondulation maritime et l'ondulation des nuées développées dans les vents, qui peu à peu crée cette cascade, ce tourbillon qui soutient les figures qui s'y éparpillent, avec au centre, tout d'un coup, l'Esprit Saint qui ouvre comme une super coupole, toute petite, vue dans la perspective, tout au bout de la lunette, une perspective qui, elle, débouche hors de l'église et même par-delà le ciel. Cette grande peinture est extrêmement révélatrice, mais elle est révélatrice non seulement de l'art de Tiepolo, elle est révélatrice aussi de l'utilisation de cette église, car nous voyons l'importance que la musique avait pour les artistes vénitiens. Qu'on se souvienne que dans les noces de Cana, le sujet principal, c'est presque au centre du tableau, Véronèse, le peintre, entouré de tous ses amis contemporains, Bassano, Titien, Tintoret, qui constitue un orchestre musical. Donc la peinture se sentait en corrélation étroitement avec la musique. Et cette tradition des anges musiciens qui commence de façon si émouvante avec Bellini se poursuit encore au XVIIIe siècle avec ces groupes d'anges qui forment le premier plan solide. C'est la musique en quelque sorte qui est la dernière masse réelle au-delà de laquelle la lumière et les nuées se développent. Mais vous nous direz et mieux, cher Marcel Brion, la présence de la musique et sa raison d'être ici.
Il était naturel que la musique fût présente dans ce plafond de Tiepolo, qui est certainement une de ses créations les plus musicales, non seulement parce qu'il y a mis, comme vous l'avez très bien montré, ce joueur de luth au premier plan, démesuré, et qui appelle, qui fait comme un grand appel, une note de chant extraordinaire, à laquelle répond un chœur d'ange derrière, et même cette viole de gambe silencieuse, nous savons qu'elle va se mettre à chanter, à jouer toute seule, et puis aussi parce qu'il y a à chaque extrémité de cet ovale de grands battements d'ailes, blanches à une extrémité de l'ovale, noires à l'autre. Et cette musicalité que nous voyons dans le plafond et que nous pouvons écouter, car s'il y a une peinture que l'on doit écouter tout autant que voir, je pense que c'est celle de Tiepolo qui est pénétrée trait de mélodie tout entière, imbibée et imprégnée de mélodie, c'est dans cette église qu'elle devait retentir surtout, puisque nous nous trouvons ici dans la chapelle, la très belle chapelle d'ailleurs, qui est grande, qui a la forme mélodieuse et grave d'un violon, dans cette chapelle qui desservait un orphelinat. Il y avait à Venise beaucoup d'institutions charitables dans lesquelles on recevait les orphelins, on recevait les jeunes filles pauvres, on recevait les incurables, et comme on pensait très justement qu'il ne suffisait pas de donner à ces pauvres petits une nourriture matérielle et une vie spirituelle aussi, mais qu'il fallait développer en eux le goût des arts, on en faisait des musiciens.
Ces hôpitaux étaient des conservatoires.
C'était des conservatoires, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait créé à Venise ce mot charmant de gabbia d'usignol, cage de rossignol, pour indiquer justement ces touchants orphelinats dans lesquels des petites jeunes filles de tout âge, depuis 9 ans jusqu'à 17 ans, avec leurs robes blanches et leurs petits rubans dans les cheveux, chantaient. Et chanter et jouer.
Sur l'oreille, ne l'oubliez
la
pas.
La grenade sur l'oreille.
Et
elle jouait car elles avaient aussi.
C'est le président de Brosse, je crois, qu'il mentionne cette fleur de grenade.
Je crois
sur
la grenade, la grenade sur l'oreille.
Je vous jure qu'il n'y a rien de si plaisant que de voir une jeune et jolie religieuse en habit blanc, avec un bouquet de grenade sur l'oreille, conduire l'orchestre et battre la mesure avec toute la grâce et la précision imaginables. Leurs voix sont adorables pour la tournure et la légèreté, car on ne sait ici ce que c'est que rondeur et son filet à la française. La zabetta des incurables est surtout étonnante par l'étendue de sa voix et les coups d'archet qu'elle a dans le gosier. Pour moi, je ne fais aucun doute qu'elle n'ait avalé le violon de Somis. C'est elle qui enlève tous les suffrages, et ce serait vouloir se faire assommer par la populace que d'égaler quelque autre à elle. Mais, écoutez, mes amis, je crois que personne ne nous entend, et je vous dis à l'oreille que la Margarita de Mendicanti la vaut bien et me plaît davantage. Celui des quatre hôpitaux où je vais le plus souvent et où je m'amuse le mieux, c'est l'hôpital de la Piété. C'est aussi le premier pour la perfection des symphonies. Quelle roideur d'exécution! C'est là seulement qu'on entend ce premier coup d'archet si faussement vanté à l'Opéra de Paris. La Chiaretta serait sûrement le premier violon de l'Italie si l'Anna Maria des Ospitalettes ne la surpassait encore. J'ai été assez heureux pour entendre cette dernière qui est si fantastique qu'à peine joue-t-elle une fois par an. Président de Brosse.
Elle chantait et elle jouait, mais elle constituait des orchestres, et c'était une des religieuses qui devait être probablement leur chef d'orchestre et leur maître de chant qui conduisait l'orchestre.
Et vous souvenez-vous que ces frêles jeunes filles jouaient non seulement de la flûte et du hautbois, mais également du violoncelle et même du basson, ce qui nous paraît
et
un
même
peu
de la trompe marine.
Et de la trompe
marine. De la trompe marine qui n'est pas du tout un coquillage qu'on l'imagine, mais qui est un instrument à cordes énorme. Eh bien, ces frêles jeunes filles jouant de la trompe marine, c'est déjà assez pittoresque, je trouve.
Il faudrait peut-être nommer ces quatre hospices conservatoires, pourrait-on dire. Celui-ci, c'était l'Ospizio degli Sposi, Bidiavosi Mendicanti, Incurabili et l'Ospedaletto. Et tous les quatre, d'ailleurs, donnaient ces merveilleux concerts. On a des appréciations émouvantes à l'époque. Jean-Jacques Rousseau disait « Je ne connais rien d'aussi voluptueux, d'aussi émouvant que cette musique. » Et quant à Goethe, il a dit « Je n'avais aucune idée de voix semblable. » On trouve d'ailleurs dans tous les contemporains, depuis le président de Brosse, l'évocation de cet enchantement. Et elle n'était pas seulement entendue dans l'église où elles occupaient ces grandes tribunes qui sont séparées de la nef par des grilles à travers lesquelles on pouvait les entrevoir d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'on les entendait. On les prêtait, si je peux dire, pour des cérémonies. Quand il y avait un prince qui était en visite à Venise, elle pouvait se déplacer parfois au nombre d'une centaine dans les jardins constitués des chœurs qui complétaient l'accueil à l'illustre visiteur. Et leur maître, évidemment, ici, donne un intérêt particulier à l'église de la Pietà, puisque ce maître, c'était Vivaldi, Antonio Vivaldi, le prêtre roux.
Cet ecclésiastique, excellent joueur de violon et compositeur médiocre,
Et il y a eu, à propos de Vivaldi, une question qui a été posée. On racontait qu'il était très distrait, on racontait que parfois il interrompait sa messe brusquement pour aller noter un motif musical qui lui était venu à la pensée. Il y a peut-être une autre raison, c'est que nous savons qu'il avait une maladie nerveuse qui l'empêchait de rester très longtemps dehors. Il devait avoir à peu près la même chose que Proust, j'imagine, car de même que Proust se promenait dans la campagne fleurie à l'intérieur d'un fiacre, parce qu'il avait de l'asthme, il est probable que Vivaldi avait lui aussi de l'asthme, et c'est ce qui explique que quand il sortait en gondole, il était toujours dans la gondole fermée, sous la capote noire de la gondole.
Vivaldi est un homme qui a certainement adoré la nature, son concerto grosso delle stagioni, naturellement, et l'œuvre d'un homme qui s'est promené dans la campagne, qui s'est promené dans les jardins, qui a connu les tempêtes de l'hiver, qui a connu la chute des feuilles de l'automne, la poussée du printemps. Si donc Vivaldi a été atteint d'asthme vers le milieu ou la fin de sa vie, nous pouvons supposer que sa jeunesse triomphante a été un printemps de course à travers la campagne, quand nous retrouvons l'écho dans toute son œuvre, dans cette œuvre féconde, dans cette œuvre tellement abondante que je me rappelle avoir vu autrefois à la Marche. On m'a montré des liasses de partitions de Vivaldi qui n'avaient jamais été dénouées. La ficelle qui les enveloppait n'avait jamais été dénouée. On peut dire que Vivaldi est une découverte des 20 ou des 25 dernières années.
C'était un musicien d'archives pendant...
C'était un musicien inconnu. C'est pour ça que l'on s'est demandé, on a pu se demander même ce qui appartenait à Bach et ce qui appartenait à Vivaldi, parce qu'il est possible que Bach ait copié des œuvres de Vivaldi, copié non pas comme plagiat, mais copié pour les avoir dans sa bibliothèque musicale et les étudier et les exécuter. Donc Vivaldi a été un musicien extrêmement fécond, un peu trop fécond diront certains. Della Piccola dit, c'est un homme qui a écrit un très beau concerto et qui l'a répété 600 fois. Le jugement est évidemment méchant, mais il peut y avoir dans Vivaldi une certaine, je ne dirais pas monotonie, mais un côté décoratif. Et tout de même, il faudrait s'entendre à ce moment-là sur le côté décoration. Quand on parle de décoration de Tiepolo, par exemple, il ne faut pas imaginer que ce mot décoratif peut être péjoratif. Et je crois que pour Vivaldi non plus, il ne doit pas l'être. C'était une époque où l'on avait le sentiment que l'art devait être étroitement intégré à la jouissance de la vie et qu'en somme, il ne devait pas se séparer de la vie. C'est pour ça qu'on entendait de la très bonne musique pendant les repas, que tous les actes des souverains et des grands personnages étaient accompagnés de musique, que Louis XIV ne se promenait jamais dans Versailles sans avoir ses violons avec lui, parce qu'au fond, la musique, comme la peinture, était l'élément capital de la vie des hommes de ce temps-là, de la volupté de vivre, de la joie d'être au monde, qui est sensible à Venise partout, dans chaque palais, dans chaque maison, que l'on entendait certainement même à chaque coin de rue, car tout le monde chantait. Et cette adhésion des arts l'un à l'autre, cette adhérence, je peux dire, de la peinture et de la musique, jamais elle n'a été aussi étroitement et aussi magnifiquement réalisée qu'à cette époque. C'est pour cela que nous pouvons reconnaître, d'ailleurs, un côté paysagiste dans la musique de Vivaldi, et de même que nous reconnaissons toute une musique qui peut être celle de Vivaldi et de bien d'autres dans les paysages de Tiepolo.
Je crois que si on cherchait la raison d'être de cette communauté peinture-musique qui s'est substituée en somme à une communauté peinture-architecture qui est le propre de l'école italienne classique et des Florentins par exemple, on trouverait un des grands mouvements de l'Occident. Je crois que c'est la découverte du temps. Cette découverte du temps qui va aboutir à la fin du XIXe siècle au roman de Proust et à la philosophie de Bergson et même à la science avec Einstein qui créera un mélange et une association intime de l'espace et du temps. Et bien, sans aller jusque-là, il y a eu une cassure à un certain moment et je crois que Venise y a beaucoup contribué. Et c'est de comprendre que l'image n'est pas seulement une fixation et une construction immuable, mais que l'image, comme la musique, peut être l'épouse de notre durée intérieure, qu'on peut nourrir sa durée intérieure avec la musique. Et cette idée-là, elle est née, je crois, à Venise. Et cela ne m'étonne pas, la cause, je la chercherai dans la mer.
Je crois que les hommes qui ont l'idée que l'on vit dans un mouvement modulé et changeant du temps, ce ne sont pas les hommes qui sont à la verticale sur l'horizontale du sol, ce sont les hommes qui sentent la mouvance perpétuelle des éléments autour d'eux. Et si un tiepolo cherche les nuages et leur donne l'apparence des flots, si un tiepolo cherche le vide et le ciel, je pense que c'est parce qu'en lui culmine l'âme de Venise qu'elle s'épanouit, qu'elle ose être elle-même et qu'il trouve cette identité avec l'âme maritime et musicale qui est le fondement de Venise. Ce qu'il y a aussi de curieux dans cette peinture de Tiepolo, et on le sent ici particulièrement, parce que en bas dans l'église, sur les autels, ce sont des peintures de Piazzetta qui se trouvent sur le maître-autel, par exemple, et puis des peintures de ses élèves. Il y a Daggio, il y a Domenico Maggiotto, qui d'ailleurs certains comme Maggiotto ont collaboré peut-être au tableau qui est sur le maître-autel. Ce sont ses continuateurs. Et là nous assistons à un autre mouvement essentiel et peut-être que Venise y a beaucoup contribué. C'est que les peintres qui commencent à exprimer la mouvance des choses en substituant les jeux de l'ombre et de la lumière à la stabilité définie des formes dans une clarté anonyme, ce qui est le propre de la Renaissance italienne. Ces hommes-là, il ne faut pas l'oublier, ont commencé par peindre la lumière sortant des ténèbres. C'est ce que Rembrandt fait aussi de son côté. C'est ce que Caravage avait fait au début du XVIIe siècle. Il est assez paradoxal que les peintres de la lumière aient été surtout des peintres de l'ombre. On n'y prête pas assez attention. Et ils ont essayé de rendre sensible la lumière par un contraste, en la faisant jaillir de l'ombre. Et tous les peintres d'où va sortir Tiepolo, et Tiepolo lui-même dans ses œuvres de jeunesse, sont des peintres fidèles à cette tradition. C'est ce qui définit Piazzetta. Nous voyons dans ces tableaux qui nous entourent ici que les marrons, les noirs dominent les ombres et tout d'un coup un rose exquis, un bleu jaillit avec une clarté, avec le blanc d'un marbre. Tandis que la proportion est totalement renversée dans Tiepolo. Et je me souviens de cette magnifique exposition Tiepolo qui avait lieu à Venise il y a quelques années. On voyait très bien comment c'est Tiepolo qui accomplit cette révolution et qui l'accomplit sur lui-même. C'est lui qui a découvert ce changement. Et je crois que c'est parce que, précisément, il a eu l'idée de la découverte du vide que nous remarquions tout à l'heure. Il a compris que le noir était densité, était pesanteur et continuait encore une présence de masse trop solide. Et alors, il a compris que si on voulait obtenir cette libération complète d'une énergie qui n'est plus qu'une vibration comme la musique, justement, il fallait que la peinture soit claire. Une peinture sombre est toujours une peinture qui évoque quelque chose qui perd. Rien qui pèse, comme dit Verlaine, eh bien, et qui pose. Eh bien, il ne faut pas que les choses pèsent et posent. Or, il n'y a qu'un moyen pour cela, c'est de supprimer tout ce qui donne une épaisseur, et l'ombre donne une épaisseur et matérialise. Et je crois que Tiepolo a accompli, dans une sorte d'épanouissement suprême et floral, a accompli la destinée de la peinture phénicienne, et l'a fait se trouver dans cette conjonction ineffable de la lumière et de la musique. Mais moi-même, je viens de suivre ce mouvement de l'église baroque que j'indiquais tout à l'heure, qui vous fait partir du sol, crever le plan plafonnant suggéré par l'architrave, et puis bondir en plein ciel avec Tiepolo. Et Tiepolo nous a enlevés dans ces nuées qui ne nous ont pas tellement écartés de Vivaldi, parce qu'elles nous ont maintenus dans la musique. Et puis, au fond, le problème que je posais tout à l'heure, c'était celui du conflit de la musique de Vivaldi et de sa tâche de prêtre. Est-ce que vraiment les distractions de Vivaldi venaient de sa musique? Est-ce que c'est à cause de là qu'il abandonnait sa messe? Je pense beaucoup plus que c'est à cause de sa santé, à cause de cet asthme. Quoi qu'il en soit, il a cessé de célébrer la messe à partir d'un certain moment. Mais il y a eu plus tard un véritable conflit avec l'Église. C'est quand il a été invité avec toutes ces jeunes filles, toutes ces élèves, à donner un concert à Ferrare. Et alors là, le cardinal Ruffo a crié au scandale et lui a refusé l'autorisation. Et l'on dit que c'est dans sa fureur de voir méconnaître le sérieux qu'avait cette équipe musicale, cette fureur de se voir méconnu, que Vivaldi a quitté Venise et s'est rendu ensuite à Vienne.
Oui, Willa était évidemment magnifiquement accueillie, c'est certain. Et je n'ai pas l'impression que Venise ait beaucoup manqué à Vivaldi, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il avait un monde intime qu'il développait selon sa propre construction imaginative. Et ce que j'ai dit tout à l'heure du sentiment de la nature chez Vivaldi est devenu assez vite stylisé et stéréotypé. Et je crois que si Vivaldi s'est répété, c'est parce qu'en somme, il n'avait pas une invention musicale extrêmement féconde, extrêmement fertile, et qu'il n'a surtout pas su deviner ce que réclamait l'époque qui allait venir. Il a été enfermé, en somme, dans un baroquisme classicisant, si l'on peut dire, alors que l'époque s'orientait au contraire vers un baroquisme rococo. Et ce baroquisme rococo, c'est celui que nous trouvons en peinture dans le Tiepolo sous lequel nous sommes en ce moment.
Dixit de Antonio Vivaldi termine l'émission consacrée à Tiepolo et Vivaldi à la Pietà, au cours de laquelle vous avez entendu également des textes de Charles de Brosse et de Jean-Louis Vaudoyer.
Et les textes étaient lus par Roger Brett et Paul Barré. C'était Heure vénitienne par Bronislav Horovic avec Marcel Brion et René Huyghe. Première diffusion sur France Culture le 3 octobre 1969.